19h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Dans un instant, le débat de Punchline, on parlera de la primaire des Républicains et tout de suite c'est le journal avec Hélène Zélani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
Pécresse contre Ciotti, voilà donc l'affiche du second tour de l'élection pour déterminer le candidat LR à la présidentielle. Grosse déception pour Xavier Bertrand. Résultat et analyse dans un instant.
4 ou 5 cas confirmés de variant Omicron en métropole, annonce du ministre de la Santé Olivier Véran à l'hôpital de Strasbourg. Le plan blanc est déclenché. Dans ce journal, démission acceptée pour l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit. Et puis duel de communication sur fond de violence entre champions de judo. On tentera de démêler les fils de l'affaire Margot Pino-Alain Schmitt.
Un mois d'attendance météo avec vous, Marlène Duret.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Alors de la pluie sur la moitié nord-ouest du pays demain, accompagnée de douceur. Dans l'est du pays, en revanche, le temps restera sec et froid. On fait le point à la fin du journal.
Europe 1. Un duo plutôt inattendu s'affrontera à partir de demain matin pour le second tour du Congrès des Républicains, Valérie Pécresse et Éric Ciotti.
Oui, 25% pour elle, 25,6% pour lui. Il devance les autres candidats et notamment celui qui partait favori, Xavier Bertrand. On va y revenir, mais d'abord Alexandre Chauveau. On va parler des deux gagnants. Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, est donc arrivé en tête.
Oui, et à travers lui, les adhérents ont plébiscité une ligne claire, la plus ferme sur la sécurité et l'immigration et libérale sur l'économie. Éric Ciotti s'est notamment démarqué pendant les 4 débats télévisé en imposant ses thèmes et il est devenu au fur et à mesure une hypothèse crédible pour se qualifier au second tour et l'emporter.
J'ai toujours eu confiance dans la force du projet que j'ai porté, qui est un projet très différent de celui de mes concurrents, un projet de rupture qui assume aussi une identité de droite.
En finale avec lui, on retrouve donc Valérie Pécresse, candidate longtemps sous-estimée, mais c'est elle qui a sans doute présenté le programme le plus abouti et qui s'est également démarquée pendant les débats. Elle incarne une ligne de droite, mais plus modérée que celle d'Éric Ciotti.
Je suis au barycentre de la droite et c'est pour ça que je pense que je peux battre Emmanuel Macron et faire revenir à nous à la fois des électeurs qui sont tentés de voter plus à droite et des électeurs qui aujourd'hui ne voient pas qu'Emmanuel Macron emmène le pays dans le mur.
Deux lignes différentes donc que les militants devront départager entre demain matin 8h et samedi 14h.
Le grand perdant ce soir, c'est incontestablement Xavier Bertrand qui, dans les sondages, semblait le mieux placé pour l'emporter. Il exprime sa déception et choisit son, ou plutôt sa candidate.
Écoutez, déçu, notamment pour tous les soutiens qui ont été les miens, pour tous les adhérents également qui ont voté pour moi. Quelqu'un me disait tout à l'heure, la vie politique est dure. Et la vie des Français est beaucoup plus dure que la vie politique. Et je pense qu'il faut aussi relativiser. Je vais apporter mon soutien avec Valérie. Éric Ciotti est mon ami, mais je pense que c'est Valérie qui est la seule qui peut l'emporter, figurer au second tour, et battre Emmanuel Macron, j'en suis convaincu. C'est pour ça que je fais le choix de Valérie Pécresse aussi.
Xavier Bertrand au micro Europe 1 d'Alexis de la Fontaine. Il ne représentera donc pas la droite à la présidentielle. Alexandre Chauveau, c'est pour lui un immense échec.
Oui, il faut se souvenir qu'il vient de loin, Xavier Bertrand. Il s'était présenté le soir même de sa réélection à la tête des Hauts-de-France, fin juin, dans une démarche très gaullienne, en écartant totalement l'hypothèse d'une primaire. Et puis, il a vu la compétition à droite s'organiser sans lui. Les autres candidats se déclaraient pendant l'été, Valérie Pécresse et Michel Barnier notamment. Et il a compris qu'il serait difficile de faire campagne sans le soutien politique et financier du parti. Alors, il s'est rapproché petit à petit des Républicains et après une très longue hésitation, il a finalement accepté de participer à ce congrès en sachant qu'il partait avec du retard parce que les militants historiques lui en voulaient d'avoir claqué la porte du parti en 2017. Alors il n'a pas fait une mauvaise campagne ni de mauvais débats, mais ça n'aura donc pas suffi. On peut lui reconnaître néanmoins d'être bon joueur puisqu'il a rejoint Valérie Pécresse seulement quelques minutes après l'annonce des résultats.
Oui, on l'a entendu. Hein. Les militants pourront donc voter pour le second tour à partir de demain matin. Alexandre, tous les perdants appelle à voter Valérie Pécresse.
Oui, et la candidate part donc sans doute avec un avantage grâce au soutien de Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin. Mais évidemment, rien n'est joué. La campagne de second tour est de toute façon extrêmement courte et s'arrêtera ce soir minuit. Le parti n'a pas souhaité organiser de débat entre les deux finalistes pour ne pas laisser de place à la division. Et à ce niveau-là, c'est plutôt une réussite pour Christian Jacob et les Républicains, car tous les candidats semblent effectivement prêts à se rassembler dès samedi 14h30 à l'annonce des résultats du second tour. Les adhérents LR sont appelés à voter pour cela dès demain matin 8h et jusqu'à samedi 14h.
Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, Valérie Pécresse et Éric Ciotti qui se sont croisés tous les deux sur votre plateau. Laurence, ils promettent de se soutenir quel que soit le vainqueur, une séquence que vous pouvez retrouver sur notre site europe1.fr. Et puis encore une personnalité écologiste accusée par une femme, une ex-collaboratrice de Jean-Vincent Placé a déposé plainte contre l'ancien secrétaire d'État. Elle l'accuse de harcèlement sexuel entre 2012 et 2016. Une enquête est ouverte. Jean-Vincent Placé avait déjà été condamné en 2018 pour violence et outrage envers une femme.
Dans l'actualité également, Hélène, le fameux nouveau variant Omicron, de nouveaux cas sont confirmés en métropole.
Oui, en plus du cas sur l'île de la Réunion, selon le ministre de la Santé Olivier Véran, 4 ou 5 personnes sont concernées et on a des précisions sur deux d'entre elles, Céline Géraud.
Oui Hélène, deux cas, deux ambiances. Dans l'ordre, il y a d'abord un homme âgé d'une cinquantaine d'années, non vacciné, résident en Seine-et-Marne, qui revenait d'un voyage au Nigeria et testé positif à sa descente de l'avion jeudi dernier. Sa femme, qui l'accompagnait sur ce voyage, là encore non vaccinée, a été testée positive. Le séquençage est en cours pour vérifier qu'il s'agit bien du variant Omicron, mais peu de doute. Les proches de cette personne, eux aussi non vaccinés, ont tous été testés et placés à l'isolement. Cet après-midi, cette fois dans le Haut-Rhin, le deuxième cas, une femme entre 40 et 50 ans avec un schéma vaccinal complet qui revenait d'Afrique du Sud vendredi dernier. Sa deuxième dose datait de juillet. Peu de cas contacts dans son cas et tous testés négatifs mais placés à l'isolement. Ce soir, il y a encore une dizaine de cas suspects sur notre territoire. Séquençage en cours, mais ça risque de grimper.
Et j'ajoute, Céline Géraud, qu'un nouveau conseil sanitaire va se tenir lundi. C'est Jean Castex qui l'annonce et il prévoit de possibles nouvelles restrictions.
Dans les hôpitaux, la cinquième vague, Hélène, se fait de plus en plus durement ressentir.
Oui, après les hôpitaux de Colmar et Mulhouse, c'est maintenant celui de Strasbourg qui déclenche le plan blanc. Ça va permettre de redéployer les soignants là où on en a le plus besoin et certains services devront faire de la place pour les patients atteints du Covid. C'est ce qui se passe au service de pneumologie de l'hôpital de Strasbourg. Reportage de Mélina Fachin.
Au service de pneumologie, on commence déjà à pousser les murs. 10 lits sur 86 sont actuellement occupés par des patients Covid et le chef de l'unité, Frédéric Deblé, sait que le plan blanc va bientôt tout bousculer.
On est en plein hiver, donc il y a des grippes, les personnes âgées sont malades et d'habituellement on est plein, on est vraiment très très occupés. Là, on est obligé d'avoir près de la moitié de nos lits qui vont être consacrés à ça. Donc les cohortes de patients transplantés, les patients qui ont des hypertensions, on ne va plus pouvoir les prendre. On manque de personnel.
Et pour les soignants qui restent, leur quotidien va à nouveau être chamboulé. Stella, infirmière, se rappelle avec angoisse des deux premiers plans blancs.
On dormait, on travaillait. On voyait que très peu nos enfants et on venait franchement à un moment donné à reculons au travail parce que c'était de la médecine de guerre. Hein. Cette période, j'ai vraiment, vraiment pas envie de la revivre. Hein. Psychologiquement, physiquement, c'est épuisant.
La jeune femme espère que ces fêtes de fin d'année ne seront pas gâchées par cette cinquième vague. Le nombre de patients Covid a doublé en 15 jours et dans les couloirs de l'hôpital, certains médecins commencent à penser que le marché de Noël n'y est peut-être pas pour rien. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
Et l'Allemagne va imposer des restrictions particulièrement sévères aux non-vaccinés, quasi-confinement, sans accès au commerce non essentiel, ni aux restaurants, ni aux lieux de culture ou de loisirs.
Allez, une pause, et puis on parle dans un instant de la démission de l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, démission acceptée par le pape. A tout de suite dans Punchline.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve pour la suite du journal de 19h avec Hélène Zélani. Hélène, le pape accepte la démission de Monseigneur Aupetit, l'archevêque de Paris.
Oui, le souverain pontife a donc rapidement tranché en moins d'une semaine. Monseigneur Aupetit étant accusé d'avoir entretenu une relation intime avec une femme, ce qu'il dément, il s'est expliqué cet après-midi par communiqué lors d'Autriche.
Oui, Monseigneur Aupetit dit qu'il est troublé par les attaques dont il a été l'objet. Il demande pardon à ceux qu'il a pu blesser. Il dit avoir eu un comportement ambigu avec une femme en 2012, sans qu'il y ait eu de relation intime ou amoureuse. Un article du journal Le Point qui a déclenché cette affaire il y a une dizaine de jours évoquait un mail envoyé par erreur par Michel Aupetit à sa secrétaire en 2012, mail qui était destiné à une autre femme. Monseigneur Aupetit est connu pour ses position stricte sur la famille et la bioéthique. Et cette affaire intervient aussi à un moment de tension dans son diocèse. La gouvernance de Monseigneur Aupetit a été mise en cause. Le pape François a donc décidé très vite, en à peine une semaine. C'est rare que le pape décide si vite. D'habitude, il prend le temps de rencontrer le ou les intéressés. Mais souvent aussi, lorsqu'il y a un scandale, eh bien, l'Église prend une décision rapidement. Et c'est le cas aujourd'hui.
Lors d'Autriche, plusieurs milliers de personnes âgées manger dans les rues de Paris à l'appel de 9 syndicats et associations. Leur revendication, une revalorisation immédiate de leur pension de retraite de 300 euros. Et puis nous évoquions hier dans ce journal l'énigme de la mort d'une jeune fille de 17 ans dans l'Aisne il y a 27 ans. L'homme dont l'ADN avait été retrouvé sur les lieux du crime a tout avoué. Il est mis en examen et placé en détention provisoire.
C'est un peu une guerre à distance qui oppose désormais la judoka Margot Pinault et son ex-entraîneur et compagnon Alain Schmitt.
Oui, elle l'accuse de violence, il est relaxé par la justice, le parquet fait appel. Elle publie une photo de son visage tuméfié sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, Axel May, ils prennent la parole tous les deux publiquement pour défendre leur vision des faits.
Oui, oui, avec d'abord Alain Schmitt qui a dénoncé un lynchage médiatique. Il a pris la parole aujourd'hui, écoutez-le.
Bien sûr qu'elle ment. C'est pas possible de mettre 5 coups de poing à quelqu'un qui se relève, il court, que je la rattrape. C'est pas possible. Et avant ça, lui avoir claqué la tête dans le sol. Vous rigolez. C'est à 100% faux ce qu'elle dit.
Alors, il a menti, c'est ce que vient de marteler en compagnie de son nouvel avocat chargé de la défendre en appel, Margot Pinault, double championne d'Europe, championne olympique par équipe cet été à Tokyo. Elle explique qu'évidemment, c'est lui qui dit les mensonges. Bref, bataille, vous l'aurez compris, de communication. Et ce qui est intéressant de noter aussi dans cette bataille de communication, c'est que Margot Pinault a d'abord publié, vous l'évoquiez Hélène, une photo de son visage tuméfié, et qui est bien tuméfié, hein, je le confirme, je l'ai vu il y a quelques instants, et qu'ensuite, Alain Schmitt lui-même a diffusé une photo de son visage abîmé.
Merci, Axel May.
Allez, un peu de légèreté, Hélène. Il y avait plus de monde que d'habitude ce soir dans le magasin Fnac, où la star du foot Kylian Mbappé dédicaçait sa nouvelle BD.
Oui, une séance de dédicace sur inscription, s'il vous plaît, à l'occasion de la parution de sa toute première bande dessinée « Je m'appelle Kylian », coécrite avec le dessinateur Faro. C'est l'histoire d'un petit gars qui jouait à Bondy, devenu un grand champion. 150 fans étaient au rendez-vous, et vous aussi, Thibaut Hu.
Et quand les fans ont découvert Kylian Mbappé assis derrière une petite table, la plupart sont très intimidés. Ils échangent quand même quelques petits mots discrets avec le joueur. Après la dédicace, Aurélien serrait fort contre lui sa BD, encore très ému.
C'est vraiment incroyable. Rencontrer Mbappé, ça arrive pas tous les jours. J'arrive pas à réaliser encore. Je regarde la signature, je me dis ouais, j'y étais quand même. On sait pas trop quoi dire, on sait pas trop comment se positionner. C'était vraiment impressionnant en tout cas.
Liam, 12 ans, casquette du PSG sur la tête, lui n'en croit toujours pas ses yeux.
C'est un grand joueur de foot, c'est un de mes préférés. Et c'était un moment que j'ai jamais oublié dans ma vie.
Et parmi ses supporters, beaucoup d'adolescents, d'enfants, et c'est pour ça que Kylian Mbappé a choisi la bande dessinée pour un livre qu'il a voulu accessible à tous.
C'est plus ludique, je pense que les enfants, ils aiment quand c'est illustré, ils aiment que ça leur corresponde, ils peuvent s'identifier à ce genre de choses. Il y a toutes les étapes de ma vie, il n'y a pas que les bons moments, il y a des moments plus difficiles, des moments plus douloureux. Le but, c'est pas de raconter des histoires, c'est de raconter mon histoire, donc c'est pour ça que je me suis autant investi dedans.
Le protocole de la séance est strict, les fans n'ont que quelques secondes avec la star, mais repartent tout sourire avec un bel objet à déposer sous le sapin.
Merci Thibaut Hu à la séance de dédicace de Kylian Mbappé, j'espère que vous allez nous rapporter un exemplaire.